Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
C'est un musicien de grande valeur que nous allons vous présenter aujourd'hui. Il est trompettiste, originaire de la Nouvelle-Orléans, le berceau du jazz, où ses aînés, dont Louis Armstrong et Sidney Bechet, ont écrit de longs chapitres de l'épopée des musiques noires. Notre invité du jour a donc en lui l'héritage d'une culture centenaire qu'il fait évoluer depuis le début de sa carrière à l'aube des années 80. À 60 ans, il est aujourd'hui un instrumentiste très respecté. Il s'appelle Terence Blanchard. Terence Blanchard fait ses premières armes au sein de l'orchestre de Lionel Hampton en 1982, puis celui d'Art Blakey. Il devient l'un des Jazz Messengers d'Art Blakey, une véritable institution qui a vu passer les plus grands solistes de l'histoire du jazz, Wayne Shorter, Lee Morgan, Freddie Hubbard, Donald Byrd, Benny Golson, les frères Marsalis, Branford et Winton, Donald Harrison et donc Terence Blanchard. Cette expérience va profondément le marquer, mais d'autres aventures l'attendent, et notamment une rencontre. Il fait la connaissance, au tournant des années 90, du réalisateur Spike Lee, qui lui confie très vite la bande-son de ses premiers films, dont Mo Better Blues. La complicité qui naît entre Spike Lee et Terence Blanchard les conduit à collaborer davantage. Jusqu'à aujourd'hui, ces deux exigeants créateurs partagent une vision artistique et politique de leur époque qui s'exprime dans leurs œuvres et leurs prises de position. Terence Blanchard, comme son ami Spike Lee, ne cache pas son agacement quand la vie de ses contemporains est menacée quotidiennement par un racisme violent qui gangrène la société américaine depuis des décennies. Son groupe, E-Collective, est sans doute l'affirmation de son engagement citoyen.
You know what's interesting though, when you go back to Brother Martin, 73% of Americans were against him, 56% of black people were against him. You know why? He'd come out against the war in Vietnam. He's trying to organize poor people and was talking about wealth inequality. He said there's going to be three issues that will haunt the American empire.
Thank you.
Dans chacune de ses productions discographiques ou scéniques, Terence Blanchard alerte sur les discriminations et les injustices. Et même si son propos contestataire n'est pas unanimement apprécié, son talent est incontestable et lui a déjà valu 5 Grammy Awards. Sa dernière grande folie créative est un opéra, présenté au Met, le Metropolitan Opera de New York, en 2021. Outre le fait que cette imposante pièce lyrique est la première composée par un Africain-Américain pour cette salle de spectacle prestigieuse, elle raconte l'histoire d'un homme noir, pauvre, abusé sexuellement par son propre cousin, qui cherchera toute sa vie un moyen de résister à la vengeance. Fire Shut Up In My Bones est désormais disponible en DVD.
I once was a boy of peculiar grace, a dangerous existence for a man of my race. A black boy from a lawless town where everyone carries a gun. I carry shame in a holster round my waist.
Comme Terence Blanchard est un compositeur, chef d'orchestre, arrangeur, interprète, fidèle en amitié, il a accepté cet été l'invitation du pianiste Herbie Hancock à le rejoindre sur scène pour une tournée européenne imposante. Le 19 juillet dernier, il se produisait donc à Marseille, dans le sud de la France, dans le cadre du Marseille Jazz des 5 continents, et nous n'avons pu résister à l'envie de passer quelques minutes en sa compagnie pour évoquer sa lumineuse destinée et ses nombreuses activités. La personnalité que nous accueillons à présent est un immense compositeur, trompettiste, activiste. Il s'appelle Terence Blanchard et nous sommes enchantés de l'avoir à notre micro.
Oh man, it's my pleasure. Thank you for having me.
Avant que nous n'évoquions votre participation à la tournée avec Herbie Hancock, parlons de vos derniers projets et de votre engagement. Chacune de vos œuvres, que ce soit avec Spike Lee, vos propres albums ou votre opéra, ressemble fort à du militantisme. À quel moment avez-vous décidé de donner une couleur rebelle à votre travail?
Well, it's something that's kind of always been with me. I mean, you look at, you know, Freedom Now Jazz Suite.
C'est quelque chose que j'ai en moi depuis très longtemps. Et je ne suis pas le premier à dénoncer les dérives de la société. Souvenez-vous de Freedom Now par Max Roach, Alabama par John Coltrane, et je pourrais continuer ainsi la liste. Il se trouve seulement que j'entre dans la continuité de cette rébellion et il m'est impossible de fermer les yeux sur le passé, sur ce que je vis aujourd'hui. C'est l'ouragan Katrina en 2005 à la Nouvelle-Orléans qui m'a fait réagir. J'ai eu le sentiment que le gouvernement nous avait totalement abandonnés. Aucun officiel ne prenait la parole et ne se préoccupait de la souffrance de la population. Il fallait que je m'implique davantage. Puis les choses ont dégénéré. On a tout de même vu récemment dans un pays dit libre des policiers abattre de sang-froid des citoyens américains à cause de la couleur de leur peau. On a beaucoup parlé de Donald Trump ces dernières années. Mais le problème des violences policières n'est pas nouveau. Il n'est toujours pas réglé aujourd'hui. Il faut donc continuer à en parler.
Est-ce que votre rencontre avec Spike Lee a changé votre état d'esprit?
Pas du tout. En fait, on pourrait dire que nos planètes étaient alignées. Nous avons tous deux une passion pour l'art et nous utilisons nos compétences artistiques pour pointer du doigt les dérives de notre temps.
Sur chacun de vos albums, avec E-Collective, il y a un point levé. Ce n'est pas anodin. Quelle réaction espérez-vous susciter?
Well, actually, we call it a mangrove.
Il s'agirait davantage d'une mangrove. Ce n'est pas seulement un point levé, c'est aussi un arbre dont les racines s'enfoncent très profondément dans le sol. C'est une métaphore pour signifier que l'union fait la force. L'individualité ne mène à rien. Nous faisons tous partie de l'humanité, quel que soit l'endroit où nous sommes nés. Le monde est un petit bout de terre dans l'univers. Il faut donc apprendre à vivre ensemble et à accepter nos différences. Il faut même se réjouir de ces différences, car chacun de nous apporte sa spécificité. C'est plutôt enrichissant, non? Pourquoi s'inquiéter de celui qui ne vous ressemble pas et être sur la défensive?
To think that other people could bring something to the world that you haven't thought of should be an exciting idea, not one that makes you nervous or, you know, defensive.
Breathless était dédié à Eric Garner, cet homme noir qui, avant George Floyd, avait lui aussi été étouffé par des policiers blancs racistes. Ne vous sentez-vous pas démuni quand les mêmes scènes se répètent? Que peut faire un musicien?
I don't feel like it's useless. I know it's already had an effect.
Je n'ai pas l'impression d'être démuni parce que je sais que ma musique a un impact sur l'auditeur. Lorsque nous avons enregistré l'album live à Cleveland, un spectateur est venu me voir après notre prestation. Il était un peu contrarié car nous n'avions pas joué de titre extrait de l'album « Tale of God's Will ». Puis il s'est ravisé, il m'a dit qu'un musicien comme vous propose une musique aussi engagée m'a fait réfléchir sur mes convictions. Et sur le problème des armes à feu aux États-Unis, ce fut un moment très émouvant pour moi. Cela veut dire que ma musique lui a fait prendre conscience des dérives de la société américaine. Parfois, on a l'impression de perdre notre temps, mais ce genre de réaction de la part d'un spectateur que je n'avais jamais rencontré auparavant et dont je ne connaissais pas les convictions m'a convaincu qu'il fallait continuer à porter la bonne parole. C'est ainsi que l'on parvient à changer l'état d'esprit de nos concitoyens. Notre principal problème aux États-Unis, c'est la vacuité du discours politique. Les Américains, dans leur grande majorité, ne veulent pas de loi contre l'avortement. Ils ne veulent pas non plus que les armes soient en vente libre sur notre territoire. Ils veulent qu'il y ait un cadre juridique solide. Ce sont deux sujets que les électeurs ont clairement exprimés, mais que la classe politique refuse de considérer.
Votre opéra s'appelle Fire Shut Up In My Bones. Est-ce que c'est une œuvre militante?
That's interesting. I never thought of it like that. Maybe, you know, because I think.
Votre question est intéressante, car je ne l'ai jamais vue sous cet angle. Cela dit, vous avez peut-être raison. Cet opéra repose sur la notion de résilience. C'est l'histoire d'un homme persécuté parce qu'il est différent, en l'occurrence homosexuel. Je ne le suis pas, mais je me suis identifié à ce personnage, car lorsque j'étais plus jeune, j'ai étudié le jazz et la musique classique, ce qui, dans mon entourage africain-américain, n'était pas chose commune. Je me suis souvent senti exclu ou montré du doigt. J'ai donc beaucoup de sympathie pour tous ceux qui peinent à trouver leur place dans la société. Je me suis dit qu'il serait intéressant de raconter l'histoire d'un homme qui finit par dévoiler sa véritable personnalité. Lorsque nous avons interprété cette pièce lyrique pour la première fois à Saint-Louis, dans le Missouri, l'acteur et chanteur qui incarne le rôle titre a déclaré que grâce à cette création musicale, il avait évolué dans sa tête. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis fier d'avoir créé cet opéra. Il faut espérer que d'autres réagiront de la même manière. Il faut espérer que tous ceux qui souffrent intérieurement trouveront la force de s'épanouir après avoir vu cet opéra.
To understand that you can move through anything with a little bit of effort and perseverance.
Vous êtes le premier Africain-Américain à présenter une œuvre lyrique au Metropolitan Opera de New York. Cela prouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les mentalités changent, non?
Of course. I mean, and I was shocked that that was at the Met. I mean, it's New York City.
Bien sûr. Et je suis d'autant plus surpris d'être le premier à l'opéra de New York, car cette ville est a priori connue pour son ouverture d'esprit et sa dimension cosmopolite. Cela nous rappelle qu'il y a d'un côté l'art et de l'autre les gardiens du conservatisme. Ces gens-là ont une idée bien précise de ce que l'art doit être. Ils essayent de maintenir la création artistique dans un cadre dont ils définissent les contours, alors qu'un artiste, par définition, est un homme libre. Un artiste doit proposer plusieurs visions de la société. J'ai été particulièrement surpris dans mes recherches musicologiques d'apprendre que certains opéras avaient été interdits parce que le compositeur n'entrait pas dans les règles édictées par ces fameux gardiens du temple. Le chef d'orchestre et compositeur William Grant Steele, par exemple, a été débouté 3 fois de suite. J'ai découvert il y a peu son opéra Highway One, qui est pour moi une œuvre révolutionnaire, tant elle conjugue l'univers du classique et du jazz. J'ai du mal à croire que cette pièce lyrique, majestueusement swing, ait été interdite par un décideur qui, visiblement, n'avait aucune conscience de la grandeur du personnage et de sa musique. Certains ne comprennent vraiment pas ce que le mot « créativité » signifie. Ils ont des œillères. Il est triste de devoir se conformer à une vision exigée de l'art pour être perçu comme un musicien convenable. Dans mon enfance, j'acceptais les règles, mais j'ai su au fil des années les contourner pour faire jaillir mon expressivité. Il faut se donner les moyens de se révéler en prenant des décisions difficiles mais utiles. C'est ainsi que vous ferez la différence.
Really giving yourself a chance to grow by making snap decisions about something that's a little different.
J'ai ouï dire que vous prépariez un autre opéra qui s'appellerait Champion. De quoi s'agit-il?
Well, actually, Champion is my first opera.
Okay.
Yeah, it was a, yeah. So what happened was,
je me permets de vous rectifier. Champion était mon tout premier opéra. Il se trouve que Peter Gelb, le directeur du Metropolitan Opera de New York, est venu me voir après la représentation de Fire Shot Up in My Bones et m'a dit la chose suivante. Je ne veux pas attendre que tu composes un nouvel opéra. Que penses-tu de l'idée de remettre en scène ton premier opéra intitulé Champion? J'ai évidemment accepté. J'aurai donc l'année prochaine deux de mes principales pièces lyriques à l'affiche du Metropolitan Opera de New York. Je rigole parce que j'enchaîne projet sur projet. Je suis donc heureux d'avoir tout ce travail à réaliser.
I could be sitting at home doing nothing, you know what I mean? So I'm happy to have all the work.
Ruby, I hope you good with your maker gal, cause you about to die.
She's so pretty!
Parlons maintenant de votre ami, Herbie Hancock. C'est une récréation pour vous de jouer à ses côtés?
No, it's very demanding because, you know, it's not something.
Non, cela demande beaucoup de travail. Pour être précis, c'est un travail musical très rigoureux. On ne se contente pas de jouer les standards d'Herbie Hancock. Son univers musical est si vaste que vous êtes obligé d'être profondément concentré tous les soirs. On en parle souvent avec les autres musiciens du groupe, et il nous est difficile de définir précisément l'essence même de sa créativité. Chaque soir, j'ai l'impression de donner un concert différent à ses côtés. C'est une bénédiction pour moi de pouvoir mettre à jour mes connaissances musicales et parfaire mon interprétation. Quand je suis avec Herbie Hancock, j'ai le sentiment de réapprendre à jouer du jazz. Je suis enchanté de passer tout ce temps avec lui. Cette tournée a été une expérience phénoménale.
More with him, you know, because it's just been a phenomenal experience.
Depuis combien de temps vous connaissez-vous avec Herbie Hancock?
Well, I've been knowing Herbie since I started. I met him when I was playing with Art Blakey, so.
Je le connais depuis un bon moment. J'ai dû le rencontrer alors que j'étais encore dans l'orchestre d'Art Blakey. Cela nous renvoie donc aux années 80. J'ai vraiment appris à le connaître quand j'ai commencé à travailler avec l'Institut Thelonious Monk à Washington il y a une vingtaine d'années. Herbie Hancock a été et reste un modèle pour moi. Avoir la chance de le côtoyer ainsi que son ami Wayne Shorter est un privilège, parce que ces deux musiciens sont des puits de science, d'autant qu'ils n'étaient pas obligés de me consacrer tout ce temps. La principale leçon que j'ai retenue d'eux, c'est ce perpétuel désir d'avancer. Ces gens-là ne s'arrêtent jamais. Ils veulent toujours apprendre et créer. Ils ne se sont jamais reposés sur leurs lauriers. Je trouve cela incroyable.
Avez-vous le sentiment d'être l'héritier d'un Miles Davis électrique dans les années 70?
It's not anything that I do consciously.
Si c'est le cas, je ne le fais pas consciemment. Il est évident que Miles Davis a une influence majeure sur ma musique. Si Miles n'avait pas existé, je ne serais peut-être pas trompettiste aujourd'hui. Je reconnais m'être inspiré de lui pour développer ma propre sonorité. Je fais la même chose avec Herbie Hancock. Je me repose sur sa musique pour trouver d'autres manières de jouer le jazz.
Quel titre prenez-vous plaisir à interpréter sur scène ?
All of them.
Je dirais tous. Ils sont si différents. Prenez par exemple l'ouverture du concert. Il y a déjà une atmosphère particulière. Prenez l'arrangement que nous avons fait de Footprints. C'est encore une autre ambiance. Herbie Hancock a ce talent de jouer avec les tonalités. Actual Proof en est un bon exemple. Il y a une énergie dans ce titre qui est imparable. Lionel Loueke, le guitariste, développe toute son ingéniosité lorsque nous jouons cette composition. Et je n'oublie pas Secret Sauce qui nous impose là encore d'être totalement investis dans notre interprétation. Chaque membre du groupe doit être à l'écoute des autres. Hier soir, par exemple, en jouant Secret Sauce, Herbie s'est lancé dans un tel solo que nous avons un peu perdu le sens du rythme. Notre interprétation est devenue très aérienne. Jusqu'à ce que le bassiste, James Genius, reprenne la mélodie principale à la basse et nous ramène sur le bon chemin. J'étais épaté sur scène. Que dire de ces fabuleux musiciens que j'ai la chance de côtoyer? Ils me permettent de vivre une expérience unique et je ne peux que les remercier.
Quoi qu'il en soit, cette tournée nous donne l'occasion de saluer votre virtuosité. Merci beaucoup, Terence Blanchard.
Thank you, merci beaucoup. It's been great to talk to you, Joe.
Quelques notes échappées de la tournée européenne d'Herbie Hancock avec à la trompette le fabuleux Terence Blanchard. Je tiens à remercier ici l'équipe du Marseille Jazz des 5 continents qui nous a bigrement facilité la tâche pour ce reportage estival. Je salue évidemment Nathalie Laporte pour la réalisation finale à RFI et mes compliments à Christophe Champin qui fut la voix française de Terence Blanchard durant cette émission. Toute la délicatesse de Terence Blanchard en janvier 2000 à New York avec le trio du légendaire contrebassiste Ray Brown. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Avant de se quitter, j'ai quelques rendez-vous à vous conseiller. D'abord, le concert du guitariste sénégalais Hervé Samb, le 29 septembre prochain au 360 à Paris. Il présentera son nouvel album, Jollof, qui mérite vos deux oreilles. Par ailleurs, je vous informe que Madé Kouti, le petit-fils de Fela, vient de faire paraître un nouveau titre, Stand Tall, qui nous invite à braver les obstacles de notre existence. Madé et son père, Femi, seront en concert le 8 octobre à Paris, en préambule à l'exposition Rébellion Afrobeat, qui se tiendra du 20 octobre 2022 au 11 juin 2023 à la Cité de la Musique à Paris. Et je terminerai avec le Rhino Jazz Festival à Saint-Chamond, près de Saint-Étienne, dans le département de la Loire, qui accueillera du 1er au 23 octobre quelques dignes représentants de l'épopée des musiques noires, et notamment les bluesmen Otis Taylor et Big Daddy Wilson, mais aussi Ablaï Sissoko ou encore les frères Belmondo, qui ressusciteront la bande-son du film Ascenseur pour l'échafaud immortalisé par Miles Davis en 1957. 42 concerts au total, 290 musiciens présents. Ce sera donc la 44e édition du Rhino Jazz Festival. J'ai tout dit pour aujourd'hui. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.